vous allez voir. Mireille, Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on... Au goulag ! Allez, allez ! T'as tricoté les pulls à verre avec du luxe. Avec des manches longues. J'ai pas froid au coude. Au coude. Violence. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps chez les conneries, chez les conneries, chez les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsable et raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre. Misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Dépouille l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Vous dérangez pas, j'ai l'habitude.
Et donc voilà, c'était Misère par Coluche. Alors Béatrice, donc nous allons parler aujourd'hui avec Béatrice Aublé-Cuvelier d'ATD Carbone et de la Journée de la Misère. Vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, d'ATD Carbone. Qu'est-ce que c'est exactement ATD Carbone?
Alors ATD Carbone, c'est un mouvement qui a été fondé en 1957 par Joseph Brzezinski avec les habitants d'un bidonville de la région parisienne. Le but de ce mouvement, c'est tout simplement l'éradication de la misère. Donc en fait, Joseph Brzezinski est un peu un visionnaire et pour lui, la misère, c'était pas quelque chose auquel on palliait ou auquel on essaie d'apporter quelques petites solutions par-ci par-là. La misère, c'est quelque chose qui doit se détruire et qui peut être détruit. Et donc, il est représenté maintenant, ce mouvement est international, il est représenté dans 24 pays, sur 4 continents.
D'accord. ATD, ça veut dire quoi, s'il vous plaît?
Alors, ATD, ça veut dire agir tous pour la dignité.
D'accord.
Effectivement, le but aussi, c'est que chacun retrouve sa dignité et que les plus pauvres puissent se faire entendre leur voix. Être aussi écouté concernant toutes les décisions qui peuvent être prises à leur rencontre, et notamment, ouais. Le but, c'est de pouvoir faire évoluer les politiques.
J'ai mis tous les quatre.
Pour supprimer la misère.
Pour supprimer la misère.
D'accord.
Pour pouvoir prendre en compte dans les différents pays.
D'accord. Et Carmonde, pourquoi? Parce qu'on parle souvent du tiers-monde. Pourquoi tiers-monde?
Il faut baisser les autres.
C'est la part de la population qui a été oubliée par la Révolution française, qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été écoutée.
Tu laisses les deux.
Tous ces gens très pauvres.
Non, ceux-là, on s'en fout.
C'est lesquels? Les pauvres des pays riches, c'est ça, non?
Ce sont les pauvres de partout.
De partout.
Les exclus de partout.
D'accord.
On parle du tiers-monde, on parle moins de tiers-monde maintenant pour les pays qu'on dit maintenant en voie de développement. Eh bien, dans ces pays en voie de développement, il y a toujours des plus exclus. Et dans tous les pays, on trouve des gens qui sont exclus. Ouais, c'est le tiers-monde.
D'accord.
Ces gens-là.
Ok. Concrètement, donc à ATD Carmonde, vous êtes en association, c'est ça, localement, à Clermont-Ferrand?
Voilà, il existe effectivement un groupe local.
Voilà.
Alors un peu plus large que Clermont-Ferrand. Habituellement groupe
local. D'accord, oui.
Nous ne sommes pas forcément très nombreux. Et nous sommes composés de ce qu'on appelle les alliés.
D'accord.
Les alliés, ce sont des bénévoles. En fait.
D'accord.
Des gens qui s'engagent à leur niveau.
Donc c'est un groupe d'alliés, donc c'est des gens qui... C'est des militants, en fait, hein.
Alors,
bénévoles, non?
Militants à un sens particulier.
Dites.
Les militants, ce sont ce qu'on appelle les militants Carmonde.
Oui.
Donc, ce sont les personnes qui sont issues elles-mêmes de la grande pauvreté ou qui sont des personnes en grande précarité, qui décident qu'elles vont être les représentants de tous ceux qui vivent cette situation et qu'elles vont elles aussi s'associer au combat contre la misère.
D'accord. Et donc,
ce sont des gens qui ont un rôle actif.
Voilà. Et donc il y a aussi des militants d'ATD Quart-Monde dans le groupe du Puy-de-Dôme.
On n'en a pas qui sont au sein du groupe du Puy-de-Dôme, mais on trouve ailleurs dans d'autres villes.
D'accord.
Dans d'autres villes, on peut avoir des militants carrément qui sont.
D'accord.
Et puis, il y a un troisième type de représentants, ce sont les volontaires permanents, sans salariés de nos points ATD Quart-Monde.
D'accord.
Qui sont engagés au côté des plus pauvres à temps plein.
Ok, d'accord. Les volontaires permanents. Donc les volontaires permanents, les militants et ou les bénévoles, c'est ça?
Voilà. Voilà.
Et donc vous êtes une bénévole, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut rejoindre ATD Quart-Monde localement, soit en tant que bénévole ou en tant que militant?
Alors déjà on peut prendre contact donc avec notre groupe. Malheureusement, nous n'avons pas de local.
D'accord.
Mais il est possible soit d'envoyer un message sur notre adresse mail.
Oui.
Donc, ATD souligné Arverne.
D'accord. ATD Arverne.
Voilà. Oui. Donc, avec le souligné entre ATD et Arverne.
D'accord. L'underscore, on va dire. Enfin,
voilà,
souligné, oui.
Et @yahoo.fr.
D'accord.
Et puis...
ça, c'est votre adresse email.
Voilà. Et un numéro de téléphone, 04 73... 36 54 06 en soirée.
Merci. On va écouter un petit morceau de musique et on viendra après parler de la journée de la misère.
Hein. Attends, et qu'est-ce qu'on fait pour le refrain? On dit quoi? Il y en a plein le cul des pauvres? Ou on dit il y en a marre des pauvres? Ouais, il y en a plein le cul des pauvres, moi je trouve que c'est mieux. Mais ouais, il y en a marre des pauvres, c'est peut-être plus joli. Ouais, c'est peut-être plus commercial, quoi. Je sais pas, on demande aux producteurs ou... Non, on l'emmerde. Ok, bon, ben on... Non, ok, on verra pendant, laisse tomber. Envoie, on va voir.
Jamais.
Merde.
Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres, y'en a nanana, y'en a marre des pauvres, y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches, du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres, marre des pauvres, marre des pauvres, ils font chier, ils font chier, ils font chier, ils sont maigres. Marre des pauvres, ils font chier, ils font chier, ils mangent encore plus mal que nous. Hey! Hey, tu peux taper dans tes mains. Ouais, on écoute ton disque. Allez, vas-y, fais-le, ça va faire super. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop plein le cul. Y'en a marre des pauvres. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Et vous êtes bien sur le 93.3, la fréquence de Radio Campus Clermont et ses plateaux de chômage, la mensuelle de Chemin Actif. Et aujourd'hui, nous recevons Béatrice Aublet-Cuvelier d'ATD Quart-Monde. Et donc, Béatrice, donc on va parler maintenant de la journée de la misère.
Oui, alors donc le 17 octobre prochain va avoir lieu la journée mondiale du refus de la misère.
La journée mondiale du refus de la misère, voilà, exactement.
Tout à fait. qui existe depuis 1987 et qui est reconnue par l'ONU depuis 1992. Donc, d'accord, elle est célébrée dans beaucoup de pays ce 17 octobre. Et donc, également à Clermont-Ferrand. Donc, c'est un collectif d'associations qui se sont regroupées pour marquer cet événement. Alors, la Journée mondiale du refus de la misère, qu'est-ce que c'est ? Ben, d'abord, ça exprime vraiment que l'on veut refuser la misère. Donc, le sens déjà de cette journée, c'est de mettre à l'honneur tous ceux qui combattent déjà la misère au jour le jour, donc ceux qui sont les premiers concernés, mais aussi tous ceux qui s'associent avec eux pour refuser la misère, la combattre de toutes les manières possibles. Et puis c'est une journée pour sensibiliser le public et sensibiliser surtout aussi les politiques, pour faire évoluer aussi les lois pour favoriser ce combat contre la misère. Donc à Clermont-Ferrand,
exactement,
que va-t-il se passer ?
Qu'est-ce qui va se passer à Clermont ?
Déjà, on vous invite à venir donc nous rejoindre Place de la Victoire, donc à Clermont.
Le 17 octobre.
Le 17 octobre même, donc c'est jeudi, c'est un jeudi.
D'accord.
À partir de 15h15, puisqu'on va avoir un certain nombre de choses qui vont se dérouler là. On a tout d'abord un chœur d'enfants qui va nous chanter des chants solidaires.
D'accord.
Certains qui sont des chants qu'ils ont écrits eux-mêmes dans leur classe.
D'accord, super.
Voilà, ils sont mobilisés déjà et l'année dernière, on les avait avec nous. On va voir un petit peu le fruit aussi d'un atelier d'écriture qui s'est déroulé avant cette journée du 17 octobre, avec des personnes qui s'engagent aux côtés des personnes en grande difficulté, mais aussi avec une expérience qui s'est menée en 2012 auprès de résidents des chalets des prés.
C'est-à-dire c'est les
donc,
chalets,
les chalets
des prés,
ce sont des chalets d'hébergement pour des personnes qui ont effectivement des soucis d'hébergement, qui sont souvent des personnes à la rue.
D'accord.
Donc c'est un peu des foyers qui leur permettent de se stabiliser avant éventuellement de pouvoir trouver à se reloger ailleurs. Voilà, donc il y a même eu un jeune homme qui a fait des publications, qui a publié des poèmes.
D'accord.
Qui pourront sans doute être présentés aussi le 17.
Donc présentés, c'est-à-dire qu'ils seront lus, qu'ils seront exposés.
Voilà, ils vont être, certains pourront sans doute être lus. C'est au état d'atelier d'écriture, il y aura également sans doute des slams.
D'accord.
Dessus, donc des lectures.
Le slam qui est une lecture en fait.
Qui est une lecture, voilà, effectivement.
Une déclamation.
De texte. Il y a une exposition aussi photo de portraits réalisés par le collectif Précarité Pauvreté avec un photographe, Alfredo Martinez.
D'accord.
Et qui seront normalement exposés.
Et tout ça, c'est Place de la Victoire ?
Alors, les photos seront plutôt exposées au parvis de la mairie.
D'accord, parvis de la mairie aussi.
Parvis de la mairie également. Et puis, on va pouvoir aussi faire connaissance avec le journal Résistance, qui est un journal publié à l'occasion du 17 octobre, qui relate des combats.
D'accord. Et qu'on pourra trouver donc ce journal.
On pourra trouver sur place. On pourra trouver un document aussi pour lutter contre les préjugés qui reprend des idées reçues sur les plus pauvres et donc qui les démonte.
Comment il s'appelle ce document ?
Document, en fait, c'est tout simplement le titre, c'est combattre la pauvreté, c'est d'abord combattre les préjugés.
Et d'accord.
Ça reprend des idées reçues.
D'accord. C'est les idées reçues
sur
la misère, c'est ça ?
Qui sont démontées avec des arguments très très précis.
Très bien. Vous pouvez nous citer par exemple un argument, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Les parents pauvres se désintéressent de l'école. Donc, faux, les parents confrontés à la pauvreté fondent au contraire de grands espoirs pour leurs enfants dans l'école. Mais ceux-ci sont généralement rapidement déçus.
Mmh.
Voilà. Les pauvres sont des fraudeurs, on a entendu parler. Donc, en fait, ils fraudent beaucoup moins que les autres, etc., etc. Donc, vous pouvez découvrir ce document.
Très intéressant.
Et puis le soir, à partir de 18h30, on ira rejoindre le Cercle du Silence qui est organisé par la CIMAD le troisième jeudi de chaque mois. Donc là, ça tombait bien, c'était le même jour.
Qu'est-ce que c'est que ce Cercle du Silence ?
Et ce Cercle du Silence, en fait, il s'élève contre, il concerne la discrimination faite aux étrangers, donc lutter contre, s'opposer un petit peu à l'enfermement des étrangers. Qui sont notamment les demandeurs d'asile. Donc là, on viendra les rejoindre, puisque le thème, j'ai oublié de le dire, de cette journée du 17 octobre cette année, c'est « Ensemble vers un monde sans discrimination ».
D'accord.
Voilà, avec un premier thème qui est « Faire reconnaître par la HALDE la discrimination pour origine sociale ». Donc il y aura aussi des pétitions qui pourront être signées dans ce sens.
D'accord. Donc, au niveau des lieux, je récapitule, il y aura la Place de la Victoire l'après-midi, c'est ça ?
C'est ça.
Il y aura aussi peut-être
le parvis de la mairie.
Le parvis de la mairie, peut-être toute la journée d'ailleurs, non ? On ne sait pas encore.
C'est vrai que je n'ai pas tous
les
détails.
Pas très bien, d'accord.
Donc l'après-midi, c'est sûr.
Ok, l'après-midi, c'est sûr.
Et la place de Jaude.
Et la place de Jaude à partir de
18h30 à 19h.
Pour
pour rejoindre le cercle du silence.
Pour le cercle du silence
de la CIMAD.
De la CIMAD, d'accord.
Voilà, orienté là pour la lutte contre toutes les discriminations.
Merci beaucoup, Béatrice. Je vais juste vous demander de nous rappeler les coordonnées d'ATD Quart Monde.
Oui, alors une adresse mail, donc ATD underscore ou le signe souligné Arverne.
Ça touche 8.
Voilà, A-R-V-E-R-N-E, @yahoo.fr. Un numéro de téléphone 04 73 36 54 06. Il faut plutôt appeler en soirée.
Merci beaucoup, Béatrice. Donc, rendez-vous donc ce 17 octobre pour refuser la misère. Et la misère, on la refuse quand même tous les jours. Hein.
Et voilà, tout à voilà. fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Donc, nous allons maintenant changer de sujet. Alors, j'essaye de retrouver mes notes. Nous allons maintenant parler de la baisse annoncée des chiffres du chômage. Et d'ailleurs, comment dire, ce n'est pas le chômage qui baisse, c'est bien le nombre d'inscriptions à Pôle emploi, ce qui est complètement différent. Donc, nous allons écouter maintenant Zali Mansouabou du Mouvement national des chômeurs et des précaires.
Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. C'est une association de chômeurs. Comme par miracle, le nombre des chômeurs a fortement chuté au mois d'août, moins 50 000. Vous y croyez ?
Non, pas du tout. Alors, moi, je n'y crois pas du tout. Donc, je voudrais m'adresser à ces membres du gouvernement, à ces messieurs du gouvernement. Pour nous, nous venons d'apprendre effectivement les nouveaux chiffres du chômage. La courbe du chômage, nous ne savons pas ce que c'est. Ce que nous connaissons, nous, c'est des hommes, des femmes, de tous âges, sans emploi, sans revenus, sans logement et sans repères. Ils sont invisibles. Donc, les chômeurs ne sont pas des statistiques et nous ne sommes pas dupes de vos entourloupes, monsieur Hérault, vous oubliez volontairement certaines catégories qui sont inscrites à Pôle emploi, toutes les personnes qui sont en situation de précarité extrême, c'est-à-dire la majorité d'entre eux sont au RSA. Aujourd'hui, il y en a 800 000 qui sont inscrits sur 4 millions. Les personnes qui sont en allocation adulte handicapé, les jeunes de moins de 25 ans, puisque c'est pas Pôle emploi qui doit s'en occuper. Les retraités qui recherchent un emploi, ceux qui n'ont droit à rien, les personnes qui sont au chômage et qui ont un conjoint qui ne peuvent pas prétendre et qui sont pas indemnisés, qui ne peuvent prétendre à rien, les personnes, n'oublions pas nos concitoyens des dom-toms, dont on préfère la flore exubérante aux chômeurs dont la pauvreté est tout aussi exubérante et qui ne sont pas comptabilisés dans vos chiffres. Vos contrats aidés, votre plan de formation entretient un micmac statistique qui ne sont pas des réponses durables et concrètes à la galère et à la précarité qui vivent la plupart des personnes dans cette situation. Non, ce n'est pas un retournement, c'est une catastrophe annoncée pour des millions de personnes qui vivent cela tous les jours. Nous, le MNCP et les autres organisations de chômeurs, nous souhaitons être reçus par Monsieur Hérault. C'est une demande que nous faisons depuis le début de la mandature de Monsieur Hollande pour présenter nos propositions. Nous, chômeurs, chômeuses et précaires, nous ne voulons pas de la courbe du chômage inversée, mais la suppression du chômage. Voilà.
L'inversion de la courbe du chômage de François Hollande, vous n'y croyez pas du tout ?
Non, on n'y croit pas du tout, surtout que d'après nos informations d'aujourd'hui, les 77 500...
Mais qui sont sortis, hein, et dont même le ministère du Travail ne s'explique pas.
Voilà. Pour nous, ce sont des cessations d'inscription, c'est-à-dire les fins de droit, les chômeurs de longue durée, qui ne trouvent plus de solution. Qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de suivi au niveau de Pôle emploi. Donc, parce qu'il y a un vrai problème d'organisation aussi à Pôle emploi, il faut le savoir. Donc les chiffres du chômage tels qu'ils sont donnés actuellement, surtout au mois d'août, je ne vois pas comment 77 500 personnes aient pu retrouver du travail, parce que voilà, c'est la question qu'on peut se poser.
Est-ce les chiffres, pour vous, sont trafiqués, c'est de la politique ?
Sont faussés. Pour nous, c'est faussé, c'est de la politique politicienne. Nous, dans nos associations, on reçoit des personnes qui sont vraiment en situation d'extrême précarité. Hein.
Dites-moi où il y en a, parce que moi je n'en trouve pas. Saint-Pin dit qu'il ne reste plus rien, il n'y a même plus un seul CDD. T'as passé tes diplômes en vain, tu peux jeter tous tes CV. Ne te fatigue pas à chercher, vous êtes 6 millions à chômer. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi ? Dites-moi où qu'il est l'emploi ? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il n'y en a pas. sacré emploi. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Où t'es, emploi, où t'es, où t'es, emploi, où t'es, où t'es, emploi, où t'es, où t'es, où t'es, emploi, 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 où t'es, où t'es, où t'es, emploi, où t'es.
Vous avez aimé Emploi où t'es? Alors découvrez également Croissance où t'es.
Où t'es, Croissance où t'es, où t'es, Croissance où t'es.
Mais aussi Courage où t'es, le tube du quinquennat.
Où t'es, Courage où t'es, où t'es, où t'es, Courage où t'es.
Et voilà, c'était, comment dire, le chômage vu par les guignols de l'info. Et donc maintenant, on va écouter une petite explication de Pierre-Édouard Magnan du Mouvement National des Chômeurs concernant cette baisse inexpliquée du chômage.
Même le gouvernement avait eu des doutes face à l'embellie sur le front du chômage en août dernier. Et effectivement, il y avait une erreur. La moitié de cette baisse de 50 000 chômeurs était imputable, en fait, à une panne informatique chez l'opérateur de téléphonie SFR. Explication, Émilie Quénaud, Jean-Michel Mire.
Elle était trop belle pour être vraie, la baisse du chômage. Non pas 1,5% comme annoncé, mais entre 0,7 et 0,9%. 22 à 29 000 chômeurs en moins au lieu de 50 000. Car certains n'ont pas actualisé leur situation sur Internet, comme ils y sont obligés chaque mois pour être indemnisés, faute d'avoir reçu le SMS de rappel que Pôle emploi envoie systématiquement.
C'est scandaleux pour les 20 et quelques mille chômeurs qui ont été radiés abusivement. Donc ça, évidemment, ils vont être rétablis dans leurs droits, mais c'est absolument nécessaire. Et puis, c'est scandaleux parce que il faut qu'on ait des chiffres fiables.
Au total, 30 à 40 000 demandeurs d'emploi auraient ainsi pu oublier de se réinscrire. Pôle emploi assure avoir contacté ces personnes et tout faire pour les rétablir dans leurs droits de manière rétroactive. N'empêche, les associations de chômeurs s'inquiètent.
On parle de mansuétude, il ne s'agit pas de mansuétude, l'institution a fait une erreur, elle doit l'assumer, et donc il n'y a même pas de débat de mansuétude ou pas de mansuétude. Ces chômeurs doivent être réglés et leur situation doit être régularisée, puisqu'ils ne sont absolument pas responsables d'un bug, que soit Pôle emploi, SFR, qui que quoi, c'est pas le problème.
Dans un communiqué, le ministère souligne que, même après l'incident, l'amélioration de la situation du marché du travail se confirme. L'ampleur de la baisse avait étonné jusqu'au gouvernement.
Oui, donc c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, voilà. Hein. En tout cas, on va parler de chômage actif plutôt. Hein, donc Jean-Paul Baratin, qui était le président le directeur de chômage actif, hein, a pris sa retraite. Et donc nous allons l'écouter. Hein, ses derniers mots, enfin ses mots, c'est pas ses derniers, heureusement. Donc nous allons écouter Jean-Paul Baratin et ensuite nous écouterons aussi. Jean-Louis Mpinigo, qui est donc le nouveau directeur de Chemin Actif et qui était aussi l'ancien directeur de Chemin Actif.
Bonjour Jean-Paul, donc directeur de Chemin Actif.
Ex-directeur de Chemin Actif, puisque je suis en retraite depuis hier au soir. Et donc j'ai été 3 ans directeur de l'association Chemin Actif, et donc où j'ai dû mettre en œuvre les projets du conseil d'administration. Et donc l'association en fait se développe sous 3 axes. Un axe de défense des droits, qui comporte à la fois de gérer les recours que font les personnes qui ont des problèmes avec Pôle emploi ou la CAF, un axe d'accompagnement socio-professionnel, donc projet professionnel ou création d'entreprise, entre autres, et puis un axe éducation populaire, donc un axe purement associatif, éducation populaire, c'est-à-dire service aux adhérents, aider les adhérents à faire des activités qui les sortent de leur morosité quotidienne. Voilà.
D'accord, donc ça c'est une tâche à plein temps.
c'est une tâche à plein temps, plus qu'à plein temps, qui demande effectivement de l'énergie et de la disponibilité, parce qu'en fait, on ouvre le matin, on est ouvert le matin au public à 9h, et on ferme le soir à 17h, parce que pendant midi, on a un restaurant associatif, et effectivement, et ça demande une présence et une animation constante. C'est-à-dire, ces fonctions, ben, effectivement, des personnes qui sont là, et puis surtout la personne qui a un problème ou qui a une difficulté ou qui a besoin d'un accompagnement, et c'est elle qui fait le boulot, c'est pas nous, hein.
L'action sociale, c'est des rencontres humaines.
C'est la rencontre entre des individus qui et de là, quand quelqu'un vient et d'un seul coup il se sent bien et que ça va le booster pour faire des choses qu'il n'osait pas faire jusqu'ici.
Pour rebondir.
Ou que le fait de pouvoir exposer son problème, ça va lui faire comprendre des choses. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est ce qu'on appelle, si tu veux, c'est le privilège de l'âge. Le privilège de l'âge, aujourd'hui, enfin pour moi, c'est de savoir lâcher prise. C'est-à-dire de savoir laisser les choses se faire et aller dans le sens où on sent que c'est bien, que c'est bon pour tout le monde, tu vois.
Ouais.
Et c'est ça. Et c'est ne pas vouloir faire des choses à la place des autres, ne pas vouloir faire des choses pour le bien des autres.
Non.
Hein. C'est déjà savoir ce qu'on veut, ne pas faire des choses qui sont contraires à ce qu'on souhaite faire, contraire à ses valeurs, et puis après, si nous on est bien, ça va être bien pour les autres. Dès l'instant où on est dans une vision humaniste, dans une vision de coopération et de partage. Mais ça, c'est un privilège de 50 ans d'activité et de bénévolat.
Ça, c'est l'expérience qui parle là, oui. Donc là, oui, c'est vrai, Jean-Paul, on te reconnaît bien, papa tranquille.
Pas tranquille du tout.
Papa protecteur.
Non, papa protecteur
pas
du
protecteur.
Tout. Non.
Pas paternaliste alors.
Pas paternaliste, non. D'accord. Au contraire, un petit peu provocateur des fois. Donc, ce qui est important dans ce qui se passe à Chemin Actif, c'est que ça soit un lieu qui soit ouvert à tous, à ceux qui ont des difficultés, à ceux qui n'en ont pas, mais que ça soit un lieu où il y a quelque chose qui se crée. Quelque chose où il y a de l'humanité, mais de la vraie, pas de l'humanité de bouquins ou de philosophie ou de projets politiques, non, c'est de l'humanité réelle, c'est des gens des personnes qui se côtoient et que dans ce bouillon de culture, chacun va y trouver un petit peu quelque chose pour soi. Mais c'est chacun qui décide pour soi, et c'est ça qui est important.
L'échange, la rencontre.
Échange, rencontre, coopération, solidarité, tout ce qu'on veut.
Émulsion, effervescence, voilà. Toutes les idées sont les bienvenues.
Voilà.
Il y a de la place, en fait.
Il y a de la place. Il y a de la place. Et encore une fois, on ne peut pas décider pour les autres. On ne peut pas vouloir le bonheur des autres.
Non.
Ça, c'est sûrement quand j'ai commencé à travailler dans le social. Je voulais faire le bonheur de tout le monde. Je voulais changer le monde.
Bien sûr.
J'ai pas renoncé à ce que le monde y change, mais j'ai plus la prétention de changer le monde.
Tes utopies ont changé.
Oui, tout à fait. L'objet de l'utopie est devenu plus réaliste. C'est une utopie réaliste, voilà.
C'est-à-dire, il faut savoir comprendre ce qui est vraiment notre pouvoir et puis ce qu'on a vraiment à faire avec les autres, en fait. Il y a des choses qu'on n'a pas.
Ce qu'on a envie de faire. Quel homme je veux être dans cette société. Quelle est la pierre que je veux amener pour la construction de cette société.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. J'ai personnellement toujours apprécié de travailler avec toi. Mais comme tu sais, le travail n'est pas fini. Donc. On continue à travailler ensemble. Et tu as écrit quand même une petite chanson pour Pierre Boussange, le président de Chemin Actif. On t'écoute.
Toi, cette chanson, toi Pierre qui, sans façon, me fit venir à Chemin Actif, comme directeur associatif. Toi qui m'as fait confiance quand les croquantes et les croquants, tous ces gens bien attentionnés, m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien que du boulot, mais il fallait l'assurer, le service aux usagers et les manifs et le resto. Toi l'Auvergnat né à Montluçon, j'ai rarement vu de gens aussi bons. Je suis bien heureux, ma foi, de t'avoir un jour rencontré.
Donc, après la discussion avec Jean-Paul, on va poursuivre avec le mot que nous a donné Jean-Louis pour l'intégration de Chum Actif.
Interrogé par toi, Jonathan.
Exactement.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Bonjour, c'est Jonathan.
Moi c'est Jonathan, c'est
oui,
ça.
Oui, enchanté.
Donc, Chum Actif, c'est une association que tu connais bien ?
Un peu, oui.
Tu étais l'ancien directeur avant Jean-Paul ?
Oui, pendant 11 ans et demi.
11 ans et demi à la tête donc, de Chum Actif. Jean-Paul vient de partir à la retraite.
Voilà.
Donc, tu lui succèdes.
Oui.
Et donc, en cette fin d'année 2013, tu reprends le flambeau.
Oui.
Que doit faire une association comme Chum Actif pour l'ensemble de ses adhérents, des chômeurs, des personnes qui peuvent et qui souhaitent profiter des services de Chum Actif?
Je dirais que Chum Actif demande à être connu, mais ce n'est pas vraiment ça, parce que beaucoup de gens sur l'agglomération de Clermont et le département connaissent Chum Actif. Chum Actif existe depuis 1986, donc ça fait quand même plusieurs années. Et localement, en tant qu'acteur dans le domaine de l'insertion, de la défense des droits et du développement des activités qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, Chum Actif est connu. Moi, je suis toujours étonné de constater que dans une période comme actuellement, avec un chômage qui est très, très, très fort, que les chômeurs ne puissent pas s'organiser pour mieux se défendre, pour mettre en place des actions collectives et essayer de trouver des solutions à leur propre situation en attendant l'embellie économique qui pourrait apporter éventuellement de l'emploi pour tout le monde. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi Jean-Louis.
Je t'en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, donc, maintenant, Thierry, j'ai rendu visite à une personne que tu connais.
Elle ah oui.
Oui, elle m'a dit beaucoup de bien de toi et de ton activité rigoureuse. Activité rigoureuse, productive et remarquée. Peut-être qu'on en saura un peu plus tard dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. Devine qui c'est.
Je ne vois pas du tout.
Tu ne vois pas ? Eh bien, elle nous donnera des informations sur les sans-abri de l'église des Minimes. Donc, on écoute maintenant Marie-Luce Pouchard.
Merci de me recevoir aujourd'hui au Centre Jean Richepin. On est le 1er octobre 2013, c'est la journée mondiale de l'habitat. On parlera ensemble de la question des sans-logis aujourd'hui à Clermont-Ferrand, où ils en sont en France et aussi en Europe. On parlera aussi de la misère un peu partout dans le monde, brièvement. Et donc vous, Marie-Luce Pouchard, vous êtes une active militante pour la Ligue des droits de l'homme et pour Réseau Éducation sans frontières, c'est ça ?
Je travaille au sein de la Ligue des droits de l'homme, section locale de Clermont-Ferrand-Rion, et nous sommes des militants du Réseau Éducation sans frontières. La Ligue des droits de l'homme de Clermont-Ferrand est l'une des organisations qui constitue le Réseau Éducation sans frontières 63.
Aujourd'hui, alors, tous ces sans-abri, que sont-ils devenus ?
Alors, tous ces sans-abri ont été en grande partie relogés. On n'est pas en... J'allais dire que c'est toujours la crise. Hein, on est en sortie de crise, si vous voulez, période transitoire. Mm-hmm. Le 115 recommence à fonctionner avec toujours énormément de difficultés, puisque hier soir encore... On s'est retrouvé à La Réunion avec 11 personnes demandeurs d'asile à la rue. Enfin, je veux dire qu'ils n'étaient pas logés, que le 115 ne pouvait plus loger par manque de place. Donc, ce n'étaient pas des gens qui se trouvaient sur la place de Jaude, puisque c'était de nouveaux arrivants au mois de septembre. Oui. Mais il n'empêche qu'il y en avait trois familles, alors, deux couples sans enfants et puis des familles avec enfants. On manque de place.
Manque de place. Comment on explique ce manque de place aujourd'hui ?
Alors, le manque de place, je veux dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandeurs d'asile dans toute la France, mais particulièrement dans le Puy-de-Dôme. On a eu un afflux, on est l'un des deux départements avec la Moselle, je crois, à avoir vu arriver plus de demandeurs d'asile que les autres années. Mmh. Et il est évident que la plateforme d'accueil qui devrait exister, d'accueil des demandeurs d'asile qui devait exister, a été complètement soit sous-estimée, soit inopérante. Voilà. Mmh. Hein? Donc, on est, si gouverner, c'est prévoir, disons qu'on n'a pas prévu suffisamment pour le nombre de personnes qui arrivaient. Mais nous voulons que les gens voient leur droit fondamental à l'hébergement respecté, oui, et respecté dignement. Hein. Tous les êtres humains, vous le voyez ici, vous êtes dans nos locaux, les, oui, hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit.
Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Voilà. Et article 1er de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voilà. On se situe, nous, dans cet axe-là. Mmh. C'est notre objectif, faire respecter les droits fondamentaux et donc la dignité humaine. Alors le problème de l'hébergement, la crise du logement sévit en France. Hein. Oui. Même si on a énormément de logements vides, voilà, ne serait-ce que sur Clermont-Ferrand, on estime, je crois que l'INSEE estimait il y a 2 ou 3 ans, le nombre de logements vacants sur la seule ville de Clermont à 7 000, aux 7 000. Environs de 7 000.
Pour Clermont-Ferrand.
Alors bien sûr, des logements divers et variés qui ne sont pas tous immédiatement réquisitionnables. Mais il y a très longtemps que nous disons qu'une des solutions serait de réquisitionner des logements.
C'est énorme, 7 000. Hein?
7 000, c'est énorme. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a toutes sortes... Moi, je n'ai pas une connaissance extrêmement précise de la raison de la vacance de tous ces logements. Mais il y a diverses raisons. Simplement, sur un parc aussi abondant de logements vacants, on imagine qu'il y en a quand même au moins la moitié ou au moins un quart qui serait immédiatement utilisable, j'allais dire, à peu de frais, hein, pour respecter les normes de sécurité. Écoutez, l'intérêt, c'est que ça fait certainement monter les loyers. Je pense que la crise du logement est une des raisons de difficultés que nous connaissons, mais en même temps, la montée de la pauvreté, de la précarité, le nombre des exclus a énormément augmenté. Hein, alors que, j'allais dire, le petit nombre des riches s'enrichissant de plus en plus augmente. Oui. Hein, c'est le résultat premier de ces politiques libérales j'allais dire, ce sont les banques qui en profitent au maximum.
Donc réquisitionner des logements, c'est pas évident.
Non plus. Alors, il n'en a jamais été question. Je vais dire que la préfecture n'a pas envisagé cette solution. Elle a réglé le problème en ouvrant des places d'hébergement d'urgence. On nous a fait remarquer qu'en un an, le nombre de places d'hébergement d'urgence, en mélangeant à la fois l'hébergement d'urgence de droit commun et l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, hein, qui ne sont pas tout à fait sur le même budget, eh bien, ça avait été multiplié par 4. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à environ 420 places d'hébergement d'urgence, d'après la préfecture du Puy-de-Dôme. Il y avait quand même 352 ou 362, là j'ai un doute sur le chiffre, personnes à la rue le 2 septembre, dont 160 enfants, et qu'aujourd'hui, on a encore une énorme tension, puisque tous les soirs, il y a des gens qui n'ont pas de place, donc qui se retrouvent à dormir dans les parcs. Hein. Il faut quand même savoir que la semaine dernière, par exemple, on a connu 2 familles de demandeurs d'asile venant de Macédoine. Mmh. Et ce sont des familles qui ont passé, effectivement, 2 nuits dans la rue. Alors, la 3e nuit, il me semble qu'il y a un militant qui en a pris au moins une. Le petit était malade chez lui, mais le lendemain, il se retrouvait dehors, quoi. Je veux dire.
On a besoin de solutions durables, en fait.
On a besoin de solutions un peu plus pérennes, je vais dire, où on ne trouve pas un hébergement pour une nuit seulement. Alors, c'est là-dessus que apporter la bagarre, Hein, pour régler la crise de l'hébergement d'urgence, on a demandé à ce que les familles connaissent un peu de stabilité, d'abord pour permettre la scolarisation des enfants, puisque je rappelle que quand même, le droit à la scolarisation d'un enfant est absolu, quelle que soit son origine et quelle que soit la situation administrative des parents. Il n'y a aucun enfant sans papier. Hein. Un enfant est un enfant, et ses droits fondamentaux sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a signé en 1989.
Qu'il est bien de rappeler. Hein.
Qu'il est bien de rappeler. Oui. C'est très très bien de rappeler la Convention internationale des droits de l'enfant. Les enfants, quelle que soit leur nationalité, leur religion, quelle que soit la situation administrative de leurs parents, ils ont droit à être scolarisés. Il y a eu une solidarité extraordinaire de beaucoup de gens sur le terrain pour emmener les enfants. C'était le jour de la veille de la rentrée que tout ça s'est passé. Hein, pratiquement tous les enfants qui étaient à Jaune ont été emmenés dans leurs écoles et étaient dans leurs écoles, et on les a inscrits à l'école le lendemain à la cantine, et on a fait ce pourquoi RESF existe. D'accord ?
Oui.
Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La scolarisation des enfants, c'est le béaba des droits fondamentaux. Le respect, le droit à l'éducation, le respect du droit à l'éducation et du droit à la santé. C'est vraiment majeur. C'est le mépris des droits fondamentaux qui provoque les tragédies et les actes barbares. Mmh. Hein, c'est le béaba de toute société, c'est d'abord le respect de la dignité et les droits fondamentaux de la personne. Mmh. C'était le 30 juillet, non, 2010. Des propos de Nicolas Sarkozy, oui, à Grenoble, vous vous rappelez, et puis la circulaire, j'allais dire très nettement discriminatoire, qui avait suivi en août 2010, et l'indignation qui avait suivi. Hein, oui. Tous ces gens de gauche étaient montés au créneau en disant « on ne peut pas stigmatiser ainsi une population, oui, ça rappelle de trop mauvais souvenirs hein. ». Et voilà que maintenant, on a un ministre de l'Intérieur qui fait la même chose.
On va rappeler ses propos. Hein.
Oh, je crois qu'il disait qu'ils ne peuvent pas s'intégrer en raison de modes de vie extrêmement différents des nôtres et qu'ils avaient vocation à revenir en Roumanie et en Bulgarie. Alors ça, si ce n'est pas une manière de pointer du doigt le mode de vie des gens, alors que s'ils vivent ainsi, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement. Faire comprendre à des gens qu'il y a deux types de droits, droit à l'hébergement d'urgence, de droit commun, et le droit à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, quand ils ne savent même pas ce que c'est qu'un demandeur d'asile. Ils n'en ont jamais rencontré un seul. Vous imaginez faire comprendre ce que ça peut être à des gens qui sont totalement ignorants de la réalité que couvrent les mots.
Oui.
Hein, là, les mots devraient dévoiler la réalité, et en réalité, on s'aperçoit que les mots, ils rendent encore plus opaques.
Exactement, oui. Tout à fait juste.
C'est plus un langage de vérité, c'est un langage qui est fait pour cacher la réalité et la violence des rapports sociaux. Parce que ce qui existe, c'est extrêmement violent. Hein, de dire qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles et qui n'en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gamins de 9 mois qui dorment à la rue dans un parc. C'est pas des dossiers qu'on traite, nous. Hein, c'est qu'on voit les familles en chair et en os. On voit les difficultés qu'ils ont. On les accompagne. On accompagne les enfants à l'école. C'est pas du papier. Hein, c'est des gens qui aiment, qui souffrent, qui rient, qui pleurent, comme nous, qui vivent. Qui ont le droit de vivre. Parce que ces gens, ils ne veulent pas payer d'impôts, parce que les pauvres, ils sont accablés d'impôts. Hein, le ras-le-bol fiscal. Je voudrais bien savoir combien de pourcentage, combien il leur reste pour vivre. Jamais personne ne parle, nous, ne reparle du salaire maximum. Je veux dire, de 1 à 10, ça irait encore.
Non,
mettons de 1 à 20, au grand, grand maximum.
Là, on est de
1
à 400.
On est de 1 à 600, je crois. 600. Vous savez, j'espère qu'il y aura du relais. Moi, j'envoie tout ça à mes petits-enfants. Hein. J'ai une petite fille qui est en terminale, là. Mais je ne suis quand même pas fière du tout du monde qu'on leur laisse. Quand je pense aux utopies qu'on avait en 68, quoi, hein. Moi, je suis une 68arde. Je suis quand même assez atterrée de l'état dans lequel on laisse pas seulement notre pays, mais la planète entière.
Marie-Luc Bouchard, je vous remercie.
Bon, au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup pour votre engagement.
D'accord.
Merci beaucoup pour cette interview.
Et puis, si vous voulez assister aux réunions de RESF le lundi soir, c'est ouvert.
Et merci pour cette invitation, Marie-Luc. Maintenant, Kenny Arcana, Indignados.
Par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des indignés avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que sont épuisées les paroles de plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné toute la ville.
En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers
à Londres, le même genre d'occupation au cœur de
l'île.
Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son main. Dis-nous que partout on se rallie, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop sont damnés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir. Poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados, parabababaros.
C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, parabababaros.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers.
Ciclo suicida, como un grito de vida. Rebeldía unida, como una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos, más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra.
Levántate, levántate.
Los verdugos mataron la paz,
la paz.
Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, pa 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 pa.
La rue se soulevé en faire trembler la machine.
Indignados, pa 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 pa.
C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, pa 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 pa.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers.
Quel est salaud à la cage,
Esperabia, pa 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 pa.
On espérance à l'humanité. Fut le printemps qui marquera l'histoire. À cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières, on s'est reconnus dans l'autre. Une seule et même terre meurtrie. Et genre, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Contre politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, en faire trembler la machine.
Indignados, parabababaros.
C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, parabababaros.
Indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salaud à la cage,
Esperanza
de Manana.
Ouais, c'était Indignados par Kenny Arcana et vous êtes sur 93.3 à la fréquence de Radio Campus et c'est toujours Plateau de Chômage, la mensuelle de Chôme Actif. Indignados, un indigné vient de nous quitter, c'est Albert Jacquard qui était président d'honneur du DAL, l'association pour le droit au logement. Il est décédé le 11 septembre dernier à l'âge de 87 ans. Le DAL lui a rendu un hommage, le DAL dont c'est l'Assemblée Générale aujourd'hui à Clermont-Ferrand, l'Assemblée du DAL de Clermont-Ferrand. Donc le DAL lui a rendu hommage sur le campement monté devant l'Assemblée Nationale pour suivre les débats autour de la loi Allure, dite Duflot 2. C'est une loi sur le logement. Albert Jacquard promouvait la coopération et dénonçait notre société basée sur la compétition. Et nous allons maintenant écouter des propos qu'il a tenus sur le travail en se basant sur sa définition première.
Moi, j'aurais très peur d'une définition globale. Si elle est globale, elle sera nécessairement floue. Elle conviendra à n'importe quoi. Parce que finalement, le mot travail est tellement employé qu'on ne sait plus du tout ce qu'il signifie. Au contraire, moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter une définition très restrictive, très précise. Et pour cela, de revenir à l'étymologie. L'étymologie, on la connaît, c'est un mot latin, le tripalium. Et un tripalium, c'était un trépied. Et un trépied que l'on utilisait pour torturer soit des animaux, soit des hommes. Le travail, au départ, c'est la torture. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions où c'est bien dans ce sens-là qu'on emploie le mot. La salle de travail, dans les cliniques d'accouchement, c'est l'endroit où la pauvre femme qui va accoucher va souffrir. Donc le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Et puis malheureusement, peu à peu, ce mot a utilisé beaucoup plus largement. Alors moi, je vous propose de n'employer le mot travail, mais c'est une discipline pas facile à respecter, uniquement dans le cas d'un travail qui est une torture, qui est quelque chose d'imposé, auquel on se soumet. Alors, à ce moment-là, on s'apercevra que, bien sûr, moins il y a de travail, mieux ça vaut. Par exemple, un instituteur ne travaille pas. Un instituteur, c'est quelqu'un qui va dans une école, qui échange et qui, au fond, vit. Et à ce moment-là, ça n'est pas quelque chose de subi, ça n'est pas une torture. De même un acteur, de même, etc. Si bien que la plupart des gens pourraient dire que le plus souvent, ils ne travaillent pas, mais ils ont une activité. Et ça met tout de suite l'accent sur l'absence de travail, que l'on déplore souvent, alors qu'on devrait, au contraire, s'en réjouir. L'absence de travail est devenue l'absence d'une fonction, l'absence d'un rôle. Et je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux représenter les fameux chômeurs comme des individus à qui on refuse l'accès à une fonction, l'accès à un rôle dans la société. Et on comprend mieux à ce moment-là que, effectivement, c'est la torture, c'est l'absence de travail pour eux. Il y a 17 000 ans, 20 000 ans, des hommes qui n'étaient pas encore civilisés, qui ne travaillaient pas, ont peint les grottes de Lascaux, les grottes d'Altamira, etc. Et en faisant ça, ils ont commencé à créer la civilisation. La civilisation, c'est justement commencer à regarder le monde autrement, à s'imaginer, ce qui est quand même une idée très étrange, qu'en peignant un bison sur le fond de la grotte, eh bien, on va intervenir sur le résultat de la chasse. Eh bien, ils ont commencé, et ça c'était 5, 6, 10 000 ans avant l'invention de l'agriculture et donc l'invention du travail. Non, le travail n'est venu que bien après, et en fait, le travail pour moi c'est un épisode dans l'histoire de l'humanité, un épisode qui aura duré une dizaine de milliers d'années et qui disparaîtra. Malheureusement, on s'y est un petit peu trop habitué et on a cru que c'était une nécessité. Mais non, le travail n'est pas une nécessité. Dans la nature, c'est un concept qui n'existe pas. Moi, je ne mettrais pas du tout le point de départ de la civilisation à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ça a été un certain progrès, mais enfin, c'était une direction un peu nouvelle. Mais la civilisation avait commencé bien avant. La civilisation, elle a commencé quand, par exemple, on a imaginé d'apprivoiser le feu. Ça, c'était un bond en avant extraordinaire. Le feu était un ennemi, c'est devenu un allié, c'est devenu un outil. Mais on ne travaille pas pour avoir du feu. On le surveille, on arrive de temps en temps à frotter des bouts de bois ou des cailloux les uns contre les autres pour provoquer du feu, mais ce n'est pas un travail. Et puis surtout une fois dans les grottes, quand on s'est bien réchauffé avec du feu, on s'est aperçu qu'on avait du temps libre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à peindre des bisons au fond de la grotte, à peindre même des mains humaines. C'est extraordinaire. C'est ça la civilisation. Ça n'a rien à voir avec le travail. Moi, je dirais qu'au contraire, la civilisation commence quand on s'aperçoit qu'on a du temps qu'il faudrait bien utiliser à faire des choses amusantes, comme de construire des images, comme d'inventer des contes, comme d'inventer des religions, comme de se mettre à faire de la poésie et de la peinture. C'est ça la civilisation. Au contraire, le travail, c'est vraiment une perversion dans cette activité civilisatrice.
Et adieu Albert, on t'aimait bien. Alors, vous êtes toujours sur 93.3, la fréquence de Radio Campus Clermont et ses plateaux de chômage, la mensuelle de Chômage Actif. Le mercredi 4 décembre, un militant, donc 4 décembre 2013, un militant du MNCP, donc de Chomactif précisément,
bien connu,
est convoqué au tribunal de Clermont-Ferrand. Il est accusé de violence suite à l'occupation régionale de Pôle emploi le 14 février dernier. Le Mouvement national des chômeurs et des précaires affirme tout son soutien à ce militant convaincu et toujours pacifique. Des actions de soutien seront prévues prochainement. Alors, plus précisément, le 13 février 2013, à Nantes, si vous vous rappelez, un chômeur s'est donné la mort devant Pôle emploi. Une action d'occupation avait alors été rapidement organisée le lendemain à Paris et le même jour à Chomactif, en soutien parallèle. À Pôle emploi, afin d'établir un rendez-vous avec le ministre du Travail, demande qui a finalement abouti le 15 mars 2013, bien sûr. Les militants à Clermont-Ferrand se sont glissés par ruse dans le bâtiment de la direction régionale où ils ont déployé une banderole et obtenu un rendez-vous avec la direction pour discuter de l'accueil à Pôle emploi et surtout pour exiger un rendez-vous avec le ministre. Le militant clermontois est accusé d'avoir volontairement commis des violences sur une personne de Pôle emploi. Cette plainte n'est pas portée par Pôle emploi, qui s'est dégagé de cette affaire, mais par la personne elle-même qui ment. Une personne qui ment. Or, d'après les témoins de la scène, d'ailleurs, moi j'y étais aussi.
Oui, il y a des témoins.
Aucune violence n'a été commise par ce militant. Selon les syndicats Sud Solidaire et la CGT 63, qui apportent également leur soutien à la poursuite de ce militant s'apparente à de la répression antisyndicale. C'est parce qu'il y a un mensonge. Bref, pour le MNCP et bien entendu l'association Chomactif en particulier, cette affaire est très grave. La non-violence et le respect des personnes, bien sûr, non-violence toujours, et toujours on respecte les personnes dans toutes nos manifestations, mais aussi nos actions à Pôle emploi ou ailleurs. C'est la règle de toujours, une règle claire et appliquée. Bon, toujours.
On se bat pour ça, quand même.
Exactement. De manière générale, nous dénonçons l'assimilation des chômeurs militants à des personnes violentes et mal intentionnées, ce qui relève de la discrimination. Cela avait été, par exemple, le cas lors de notre action pacifique Fouquet's en mars 2012, où un militant avait été poursuivi pour violence et les organisations de chômeurs de vol de petites cuillères. On croit rêver. À seule fin de nous discréditer. Le Mouvement national des chômeurs et des précaires soutient donc ce militant de Clermont-Ferrand et des actions de soutien diverses seront mises en place prochainement. Donc je rappelle, c'est le mercredi 4 décembre que le procès aura lieu à Clermont-Ferrand.
On le soutient tous.
Oui, moi aussi. Alors, vous êtes toujours sur Radio Campus. Hein. Radio Campus qui lance une collecte pour la Fringale. La Fringale, c'est l'antenne jeune du Secours Populaire. Vous pouvez déposer à la radio des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Donc à la radio, je vous rappelle l'adresse, c'est le au 16 rue de Georges. Donc du lundi au vendredi entre 9h et 18h et le jeudi jusqu'à 20h. Soyons solidaires avec ces étudiants précaires, avec les étudiants précaires. Cette collecte se clôturera le samedi 19 octobre par un concert au centre Camille Claudel, un concert de Mustang. Un Mustang et aussi de Riverside. Ah oui, j'avais pas Riverside sur ma feuille, moi. Tu vois.
Riverside.
Ouais. Voilà. Je connais pas. Merci, Jonathan. Alors, merci Béatrice Aublet-Cuvelier qui nous a quittés, mais merci pour son témoignage au sujet d'Athée des Quart-Monde et de la journée du refus de la misère. Merci Jean-Paul, ancien président de Chomactif. Mais on va pas te lâcher comme ça. Merci Marie-Luce Pouchard de la Ligue des Droits de l'Homme pour tout ce que tu fais. Merci François à la technique et merci Jonathan pour toutes tes interviews. Et rendez-vous le mercredi 6 novembre 2013 à 18h sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, ça va être place à Onde Bulle, donc une émission sur la BD.
Et merci Thierry pour ton dynamisme.
Ciao.
C'est malheureux de voir tout ce peuple en chômage. Tout cela est devenu une maladie comme la rage. Je pense qu'il serait temps de faire un dépistage et de stopper tout cet tas de bavardage. Tout le monde se retrouve à la nage. Y'a pas une d'atterrissage, on se retrouve sans bagage. On cause un blocage et ça fait des ravages dans un beau paysage. Attention au voisinage, c'est le chômage, chômage. Paré pour le décollage. C'est le chômage, chômage. Oh, ah, oh, ah. Le tournant.
on m'attendait dans les bars.
Diplôme ou pas diplôme.
La chose s'appelle du genre.
Bidan lag di birinundan björ günüm, bidan lag di birinundan björ günüm fram.
Har kommit in fjorda.
Vittlir han, stittlir han, hon tog svå till orda, far röjde lojen fram. Bidan lag di birinundan björ günüm, bidan lag di birinundan björ